Bonjour à tous et à toutes. Bonne année, comme l'a dit Corinne, à ceux que je n'ai pas encore vus, ou ceux qui sont derrière l'écran et que je ne sais pas qui ils sont. Mais je vous souhaite une bonne année. Alors, vous avez déjà lu le titre, j'imagine. Est-ce que quelqu'un a essayé de réfléchir qu'est-ce que j'aurais pu raconter à travers ce message ? Non, ouais, c'est encore les fêtes, hein, c'est dur, je comprends. Il n'y a pas de souci. Ah, monsieur Bernis, tu as trouvé ? On verra. Non, on fait un check à la fin. Dieu est très marrant parce que j'ai essayé de créer un titre justement pour essayer de vous maintenir éveillé pendant toute la prédication en me disant que je donnerai l'élément secret qu'à la fin. Mais bon, Dieu a déjà ruiné ma prédication parce que tout ce matin, on a vécu ce que je voulais dire. Mais bon, j'ai l'habitude, c'est un petit farceur. Non, autre la blague, Dieu est maîtrise. Il a déjà dit quelque chose à travers la louange et la prédication va aller dans le même sens. Donc c'est pour ceux qui auraient loupé quelque chose avant. On va tous vraiment être branchés sur ce que Dieu a envie pour nous. Alors j'ai des questions importantes à vous poser. Est-ce que vous aimez manger ?
Oui.
Bien. Est-ce que vous aimez cuisiner ?
Oui.
Après, est-ce que vous êtes créatif dans la cuisine ?
Oui.
Ah, je note les adresses. J'irai vous visiter dans pas longtemps. Et est-ce que vous copiez les recettes ? Ah, il y a déjà beaucoup moins. Intéressant. Ben moi, j'aime bien copier les recettes. Je regarde, j'écoute. Des fois, je fais. Des fois, ça marche. Comme disait un célèbre humoriste, des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'avais ma grand-mère qui avait une recette. C'était un gâteau de semoule à la citrouille sucrée, c'était une perfection. J'en ai mangé pendant longtemps sans me poser la question, mais un jour, il faudra prendre la relève. Et malheureusement, ma grand-mère est décédée et elle n'a pas laissé la recette. Alors moi, j'ai fait des études hôtelières, j'ai fait le cuisinier, j'étais jusqu'au bac et j'ai essayé de refaire cette recette en regardant tous les éléments en me disant « j'y arriverai à faire comme elle ». Ben non, j'y suis jamais arrivé encore. Il me manque cet élément secret qu'elle seule avait. Et vous inquiétez pas, je ne vais pas parler cuisine toute cette journée quand même. On va parler de Dieu. Ça. Il y en a qui sont déçus.
On aurait bien aimé ce truc.
Oui, mais ça, c'est en dehors de la caméra. Je peux parler de tout ce que vous voulez. Je veux dire que Dieu est créateur de toutes choses sur la terre. On est d'accord avec ça. Rien n'a été fait sans lui. Et pourtant, on voit quelques différences entre certaines personnes et d'autres. Et moi, j'aime bien parce que dans certaines, quand vous voyez les gens arriver, vous voyez qu'ils ont quelque chose de plus que les autres. Comme dans la cuisine, cet élément secret. On se dit, mais qu'est-ce que c'est ? C'est pas possible. Comment il fait pour être si différent des autres ? Ça vous est déjà arrivé ? Alors, on va partager un personnage dans la Bible. C'est très marrant parce qu'on ne parle pas beaucoup de comment est sa relation avec Dieu, mais on en voit les fruits. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous ce matin. Donc c'est Joseph, dans le chapitre 37, et on va commencer par le verset 1 à 4. La Genèse, j'ai dit Joseph, oui, parce que j'écris Joseph, donc je lis mes notes, c'est tout bêtement. Merci pour ceux qui suivent. Donc c'est Genèse 37, verset 1 à 4. Quant à Jacob, il s'installa dans le pays de Canaan, là où son père avait séjourné. Voici la lignée de Jacob. À l'âge de 17 ans, Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères. Le garçon était en compagnie des fils de Bila et de Zilpa, les femmes de son père, et ils rapportaient leurs mauvais propos à leur père. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Ses frères remarquèrent que le père l'aimait plus que tous, et ils se mirent à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Pardon. Alors on voit dans ce premier texte, que Joseph, c'est le frère de 11 frères, ils sont 12, j'espère ne pas arriver jusque-là, je peux le dire parce que mon épouse, elle n'écoute pas, donc ça va. Et ils sont 12 frères, mais il y en a un qui est différent, et en tout cas, il est aimé par son père. Donc on devrait dire, normalement, ça commence bien, parce qu'il est aimé par son papa. Mais cet amour-là va créer un petit peu des tensions avec ses frères, qui ne vont pas s'arranger dans la suite du texte. Si on continue un petit peu, Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères, qui le détestèrent encore plus. Alors, je vais vous passer le rêve parce que vous le connaissez et ça va prendre du temps. Mais en tout cas, il y a ce passage au verset 8. Ses frères lui dirent, est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Parce que c'est un petit peu la description du rêve. Ils n'ont pas besoin d'interprétation, ils ont tout de suite compris. Et puis Joseph fit encore un autre rêve. Il le raconta à son frère. Je vous passe aussi les détails. Mais ses frères se montrèrent jaloux de lui. Mais son père garda le souvenir de cela. Donc cet homme, Joseph, est aimé par son père naturel, mais il est aussi aimé par son père céleste qui lui donne des rêves et qui lui montre l'avenir. Et pas un rêve, deux rêves. Je sais pas, peut-être Joseph n'a pas été enseigné, mais en tout cas, je ne pense pas que quand je lis toute son histoire qu'il avait mauvais fond, il voulait juste partager son rêve, il ne voulait pas montrer qu'il était au-dessus. Quoi qu'il en soit, c'est un petit peu tourné au vinaigre avec ses frères, parce que ça rajoutait un petit peu de la mauvaise humeur entre eux. Et puis en continuant ce texte, on va arriver au verset où ils vont le vendre. Alors, je vais essayer de retrouver. Ils veulent même le tuer, ça va très loin, hein. C'est quand même des frères, ils sont censés prendre soin l'un de l'autre. Certains veulent le tuer tellement ils ont de l'animosité. Et puis il y en a d'autres qui vont dire non, on le vend. Donc vous avez un Joseph qui est bien dans ses baskets, qui est heureux de vivre, qui a une grande famille, qui est dans la richesse quand même. Il est aimé par son père, il est aimé par Dieu. Il a tout ce qu'on voudrait avoir tous les jours. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu, malheureusement. Et il va finir vendu par ses frères et il va partir donc dans une nouvelle vie, esclave. Alors je ne sais pas si... Si donc, quand vous lisez la Bible, vous aimez vous poser et réfléchir, parce qu'on lit, les mots, oui, ok, t'es esclave. Voilà. Moi, j'imagine la vie de Joseph, entouré par ses frères, avec la bénédiction, la nourriture, les temps de célébration, parce que c'est des gens qui aimaient Dieu et qui servaient Dieu tout le temps. Et du jour au lendemain, par ses propres frères, il se retrouve vendu et en esclavage. Et il va en direction d'un pays non seulement étranger, mais je veux dire un pays pas très, très copain avec Israël quand même. Et on ne sait pas pourquoi la Bible ne nous donne pas vraiment des détails sur comment il a vécu intérieurement, mais je pense qu'on n'a pas besoin de développement pour savoir que ça a dû être, en tout cas, compliqué pour lui. On va continuer à Genèse 39, versets 1 à 6. Quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte, et Potiphar, l'officier du Pharaon, qui était chef des gardes d'un Égyptien, l'avait acheté aux Ismaélites, qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph, et la réussite l'accompagna. C'est pas beau, ça ? C'est étonnant de voir qu'il est parti en esclavage, mais que Dieu est avec lui, et que Dieu va le bénir. C'est la petite partie qui manque, je dis, mais... En tout cas, j'imagine très bien que Joseph avait une très bonne relation avec Dieu, une très bonne relation avec ses frères, avec son père. Et Dieu l'a toujours accompagné. Et des fois, dans notre vie, on a des projets ou, comme Joseph, on a un rêve, Dieu nous dit quelque chose et puis on se dit « Ouais, super, on se met en mode, je vais y aller, on réfléchit à plein de choses. » Et il nous arrive quoi ? Totalement le contraire. Parce que quand même, Joseph, c'était dur. Passer du rêve à l'esclavage, il fallait se l'avaler, il fallait se le digérer. Mais ce que j'aime bien, même si ce n'est pas écrit, on peut le supposer, mais je pense que c'est largement dans les cordes, c'est qu'il avait une bonne relation avec Dieu. Et cette relation avec Dieu va lui sauver la vie tout au long de sa vie, d'ailleurs. On a parlé tout à l'heure d'intimité. L'intimité, c'est déjà un grand cran, mais on commence par la relation. Et on voit bien qu'il a une relation avec Dieu et que ça se passe bien. Et je pense même qu'il était très intime pour que Dieu, avant quoi que ce soit qui se passe, il est esclave, il vient juste d'arriver dans la maison de Potiphar, il n'a encore rien fait. Mais Dieu dit, l'Éternel est avec Joseph et la réussite l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Temps mort. Je répète, son maître vit que l'Éternel avec lui. Donc je rappelle le contexte. On est en Égypte. Il y a des adorations de plein de choses dont je nommerai pas, mais en tout cas, ils ont une grande famille là-bas. Et étonnamment, ce gars, il voit que Dieu est avec Joseph. Et quand on parle d'intimité, quand on parle de relation avec Dieu, bien sûr qu'on pense souvent à nous, et ça nous fait du bien, et on est heureux, et tout va bien. Mais il n'y a pas que ça. Dieu ne vient pas juste habiter en nous pour nous faire du bien, même si c'est le cas, je ne l'enlève pas. Mais c'est surtout aussi pour bénir autour de nous. C'est pour que cette bénédiction ne reste pas en nous, mais pour que la connaissance de Dieu, la présence de Dieu, soit répandue autour de nous. Et par ses actes, par ses paroles, par son travail, Joseph va montrer à cet homme que l'Éternel est avec lui. Et moi, je trouve ça très fort que ce gars qui est égyptien, qui devait adorer tous les dieux qui passaient, a reconnu l'œuvre de Dieu sans connaître Dieu. L'Éternel le faisait réussir entre ses mains. On va continuer au verset 4. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service, l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Dès que Potiphar lui établit responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens, que ce soit à la maison ou que ce soit au champ. Il abandonna tous ses biens entre les mains de Joseph et il ne prenait connaissance de rien avec lui sauf de sa propre nourriture. C'est incroyable, non ? Le gars, il arrive esclave. Donc c'est pareil, c'est pas trop à la mode aujourd'hui, en tout cas pas dans notre pays. Mais être esclave, normalement, vous n'avez pas de liberté, vous faites ce qu'on vous demande, et c'est tout. Mais lui, il ne s'est pas laissé impressionner par cette mauvaise condition, cette séparation, parce que je n'ai pas nommé les douleurs, mais quand même il y en a. Séparé de son père, séparé de sa mère, séparé de ses frères, séparé de la bénédiction, séparé de son pays. Mais Dieu est toujours avec lui. Il continue sa relation avec Dieu, il entretient sa relation avec Dieu. Il accepte là où il est aujourd'hui, dans cette condition. Il va continuer à grandir avec cette onction de Dieu sur lui et va pouvoir bénir ceux qui sont autour de lui. Alors, je ne sais pas si vous êtes posé cette question, mais moi, j'aime beaucoup. Je me dis quand même, le gars, ce n'est pas un pauvre, quoi. Il est déjà riche, il a déjà plein de biens. Pourquoi avoir envoyé Joseph chez lui, quoi ? Et oui, c'est le fonctionnement humain. On a des cadres. Bon, moi, je suis né à la campagne, donc les gens de la ville... Il a fallu que je me réconcilie avec. Parce qu'au début, je n'aimais pas trop. Mais grâce à Dieu, il a fait un travail en moi. J'aime tout le monde maintenant, tout va bien. Mais c'est pour élargir votre esprit. Je ne sais pas comment vous pensez ou comment vous voyez les choses. Des fois, on se dirait, pourquoi Dieu ne va pas aider les Africains qui sont en train de mourir de faim en Afrique ? C'est notre réflexion. Mais Dieu, il envoie des gens où il veut, et pour les raisons qu'il veut. Et bien là, il va dans la maison de Potiphar, qui est déjà riche, mais il va multiplier sa richesse, non pas à cause de cet homme, on l'a bien compris, mais à cause de cette relation qu'il a avec Joseph. Et moi, je dis, waouh, on a beaucoup à apprendre. On parlait évangélisation tout à l'heure, on parlait œcuménisme. Quelles sont vos limites ? On en a tous. Moi aussi, vous rassurez-vous, c'est pas parce que j'ai un micro que j'ai pas de limites. Mais où Dieu veut nous emmener ? Où il veut nous emmener pour libérer sa présence ? Il y a toujours des endroits où il a envie. Bien sûr qu'il y a des endroits sécures qu'on peut partager, mais il y a des endroits où ben, il a besoin de nous à cause de nos capacités, de nos qualités, à cause qu'il nous a choisis, qu'il peut mettre plein de choses en nous pour aller libérer ce message à certains endroits. Alors quand Dieu vous encourage à aller quelque part, que vous soyez convaincu ou moyennement ou pas du tout, écoutez-le, parce que c'est son œuvre et il va toujours au bout de ce qu'il dit. Et moi, j'apprécie énormément, même si ça m'a interpellé, qu'il bénisse cette maison et cet homme, et vraiment tout, la maison, les gens, les champs, rien n'est passé en dehors de la bénédiction grâce à l'œuvre de Dieu dans Joseph. Et à la fin de ce verset, il y a, si je retrouve, « Or Joseph était beau à tout point de vue ». Ça aussi, c'est quelque chose que j'aime. On peut être beau physiquement, mais là... La Bible nous dit qu'il n'était pas simplement beau physiquement. Il était beau à l'intérieur. Son âme devait être belle, son esprit devait être beau, son corps devait être beau. Quand on laisse Dieu vivre en nous et faire toute son œuvre en nous, il y a quelque chose justement de Dieu qui rayonne. Cet élément secret dont je parlais tout à l'heure, c'est ça. C'est la présence de Dieu en nous. Elle fait quelque chose que nous, on ne peut pas produire. Même en faisant tous nos efforts, on pourra arriver à certains niveaux. Mais il n'y a que la présence de Dieu, la relation avec Dieu, l'intimité avec Dieu qui vont faire cette différence. Mais cette différence, bien évidemment, vous vous en doutez, à un moment, elle coûte aussi. Et particulièrement donc pour Joseph. Il dit « Personne n'est plus grand que moi dans cette maison, il n'a rien interdit, sauf... » Ah oui, alors non, j'ai été un peu vite. « Après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et lui dit « Mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. » Est-ce que ça ne vous rappellerait pas une histoire par hasard ? Tout est à toi, sauf cet arbre. Adam et Ève, ils sont dans un jardin, ils ont Dieu, ils marchent avec lui, ils ont plein d'animaux, plein de végétaux, ils ont tout ce qu'ils veulent et ils ont la présence de Dieu aussi. Au passage, si on avait oublié, il n'y avait qu'une seule chose qu'ils ne devaient pas toucher. Vous connaissez la fin, ils y ont touché. Pour vous expliquer que l'ennemi, il n'est pas très inventif ou créatif dans ce domaine-là, ce qu'il a fait à Adam et Ève, il a voulu le faire avec Joseph. Et c'est alors où on se rend compte que Joseph, quand même, il a un certain niveau d'intimité avec Dieu, parce que ça ne l'a pas du tout intéressé, et il a bien vu qu'est-ce que l'ennemi essayait de faire à travers ça. Dès qu'on devient intime de Dieu, dès qu'on a une relation, qu'on la développe, et oui, il y a la bénédiction. Mais forcément, l'ennemi, il n'aime pas ça. On n'en parle des fois pas trop dans nos églises, mais je suis désolé, ça fait partie de la Bible, et on ne peut pas l'occulter. En tout cas, pour grandir en Dieu, c'est important de le savoir. Qu'il y a un moment, ce n'est pas que ça va coincer, mais l'ennemi va venir un petit peu nous chahuter. Et nous, quand on est chahuté, on dit « ça y est, Dieu n'est plus avec moi ». On commence à pleurer, à se dire « Dieu m'a abandonné, c'est pas possible, pourquoi ?» Non, non, c'est juste l'ennemi qui est très très jaloux, qu'il a toujours été et qu'il sera toujours malheureusement, et qui vient nous embêter, et là, embêter Joseph. D'ailleurs, ceci en passant, là où on est le plus embêté, c'est souvent avec... là où on pense que c'est une femme, j'aime bien les femmes, j'honore les femmes, alors attention, hein, ne prenez pas mal ce que je dis, je respecte les femmes comme Dieu les respecte, mais l'ennemi a pris un malin plaisir à se servir d'elles pour faire des choses pas bien. Quoique, j'allais dire à notre époque, homme ou femme, maintenant, on est un peu embêté partout. Mais bref... En tout cas, vous avez souvent lu dans l'histoire d'Israël qu'il y avait Baal, Astarté. Et puis on se dit, c'est bien, mais c'est qui Baal, c'est qui Astarté? Nous, ça ne nous parle pas aujourd'hui. Et bien Baal et Astarté, c'est Dieu, c'est deux dieux. En tout cas, on sait bien qu'il n'y a pas d'autre dieu que Dieu. Donc c'est des esprits méchants qui se cachent avec des noms. Mais en tout cas, qui sont bien à l'œuvre et entre autres dans la sexualité, la pornographie et tout ce qui peut toucher de loin ou de près à ça. Et ça ne m'étonne pas que Joseph, il n'a même pas pris l'écran d'avant. Il arrivait direct au truc que le diable aime bien pour lui mettre la pression. Mais notre Joseph, il n'a pas plié. C'est ça qui est important. Et elle, elle a mis la pression. Alors elle, essayez de bien lire entre les lignes, c'est l'ennemi à travers elle qui a mis la pression. Elle parlait tous les jours à Joseph, mais il ne l'écoutait pas. Comme ça, le truc. Ça passait, ça glissait, comme ça. Et refusait de coucher avec elle, d'être avec elle. Un jour, il était entré dans la maison pour accomplir son travail, et il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle l'attrapa par son habit en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son habit dans la main et sortit. Ce que j'aime bien vraiment, c'est que quand on est calé avec Dieu, on sait là où on doit être, là où on ne doit pas être, qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. L'ennemi, il peut essayer un stratagème, deux, trois, différents. Il peut attaquer, réattaquer de n'importe quelle manière. Sinon, on est bien calé dans notre intérieur, ça ne nous atteindra pas. Par contre, si on n'a pas fait le ménage, si on n'a pas fait gaffe à bien nettoyer qui on est et notre passé, des fois, ben, ça nous arrive de tomber. Il faut être honnête. Grâce à Dieu et grâce à Jésus, on peut se repentir et recommencer la route. Mais Joseph, bien calé, bien dans ses bottes, il continue son histoire, malgré la pression de cette femme. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son habit dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela des gens de sa maison et leur dit « Regardez, il nous a amené un Hébreu pour abuser de nous. Cet homme s'est approché de moi pour coucher avec moi, mais j'ai poussé de grands cris. Quand il a entendu que je me mettais à crier, il a laissé son habit et à côté de moi et est sorti. » Alors je passe aussi parce que c'est un petit peu long, mais en fait elle explique, elle attend son mari en mode victime, je suis victime, je suis une grosse victime, et quand son mari arrive, elle pleure, elle hurle, elle dit regarde ce qu'il a fait. En entendant les affirmations de sa femme qui lui disait voilà ce que m'a fait ton esclave, vous avez vu aussi que normalement il n'est plus esclave le gars, il est responsable de tous les biens. Mais à ses yeux, à elle, ce n'est pas le responsable de tous les biens, c'est un esclave. Ça aussi, terme d'identité, c'est très important. Et elle va dire, elle le dit, et le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il s'empara de Joseph et le mit en prison, à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il resta donc là, en prison. Sacré Joseph, il fait tout ce qu'il faut, il a une bonne relation avec Dieu, il bénit les gens autour de lui, et il se retrouve dans une condition pire que la première. Parce que esclave, vous êtes esclave, mais vous avez quand même normalement un logement, à boire, à manger, une petite liberté de mouvement, et vous faites ce qu'on vous dit. Même ça, il l'a perdu, il se retrouve en prison, entre quatre murs, tu n'as plus rien à faire, plus rien à dire, tu n'as plus contact avec personne. C'est incroyable. Et c'est l'œuvre de l'ennemi, et je peux même insister sur, quand l'ennemi veut faire quelque chose, il le fait d'une manière ou d'une autre, il n'a pas répondu aux avances de madame, mais elle a réussi par le mensonge à le faire quand même emprisonner. J'imagine que vous connaissez un petit peu l'Église persécutée. Il y a beaucoup de gens en Inde et dans d'autres pays qui se font enfermer que par des mensonges. Ils ont une telle onction, une présence de Dieu qu'on peut les accuser de rien parce qu'ils aiment respecter Dieu, ils respectent Dieu. Le seul truc qu'ils peuvent faire contre eux, c'est le mensonge. Mais grâce à Dieu, Dieu est fidèle avec Joseph et Dieu est fidèle avec l'Église d'Inde et toutes les églises, je ne peux pas toutes les nommer, qui sont persécutées ou que l'ennemi essaye d'enlever du droit chemin. Et Joseph va continuer son aventure. Joseph rentre en prison. Qu'est-ce qui se passe? L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. C'est ça qui est beau. C'est quand vous avez une relation avec Dieu, Dieu est toujours avec vous. Il ne vous abandonne jamais. C'est toujours une question de point de vue. Si vous rentrez dans la prison, parce qu'il y a une prison physique, c'est là. Mais nous, des fois, on est dans des prisons. Et quand on rentre dans ces prisons, on dit « Dieu m'a abandonné ». Et puis on s'assoit, puis on fait Calimero. Non, Joseph, Dieu est toujours le même. Il est dans une condition, il continue son œuvre, et Dieu va le bénir. Et maintenant, il ne se retrouve pas dans une maison de riches, il se trouve dans l'endroit le pire qui existe sur la terre, surtout que en Égypte, à cette époque-là, ce n'est pas les prisons d'aujourd'hui, chez nous en France. On n'a pas les détails, mais je n'ai pas envie de les connaître. Mais il a le plus grand trésor, il a sa relation avec Dieu. Il a la présence de Dieu en lui, même si tout autour, ce n'est pas agréable. Et du coup, il va continuer son œuvre, comme il était un vrai témoin chez cet homme riche, il va être un vrai témoin et une bénédiction plus que ça. Tous les gens qui ont rencontré Joseph pendant cette période-là ont été des gens bénis. Ils ont pu rencontrer Dieu dans un endroit où ça peut paraître compliqué de le rencontrer. L'Éternel fut avec Joseph et étendu sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison et tout ce qu'on y faisait passait par lui. Le chef de la prison ne s'occupait pas du tout de ce qui était sous la responsabilité de Joseph, parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Je kiffe ça. Franchement, je kiffe ça. On parle souvent d'autorité, et Joseph, par sa relation, il a acquis cette autorité, où dès qu'il est quelque part, bim, on lui remet sous cette autorité. Et tous les gens de cette génération, à ce moment-là, dans cette prison, ont eu l'occasion de rencontrer Dieu, parce que Joseph avait autorité sur tout le monde. Mais il n'a pas gaspillé cette autorité, il n'a pas abusé d'eux, il n'a pas été méchant avec eux. Il a montré toute la bonté de Dieu dans son exercice de tous les jours, de nettoyage, de prise de responsabilité. Il en a sûrement donné des responsabilités et il a participé à la bénédiction de toutes ces personnes. On continue encore l'aventure. Alors il y a ces fameux deux échansons qui arrivent avec les rêves. Donc je vais passer aussi, on ne va pas raconter les rêves. Je regarde dans mes notes. Alors, oui, je vais passer les rêves. Ils racontent chacun leurs rêves. Et puis à la fin, Désolé. Verset 14 au chapitre 40. Donc, il écoute le rêve du premier, il lui dit l'interprétation, et il lui dit « Cependant, souviens-toi de moi ». C'est un des seuls passages où on sait vraiment ce que Joseph vit. « Souviens-toi de moi quand tu seras heureux et fais preuve de bonté, parce que lui, il en a fait preuve, envers moi, parle en ma faveur au Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. » En effet, et là, il raconte ses douleurs, « J'ai été arraché au pays des Hébreux et même ici, je n'ai rien fait qui mérite la prison. » Voyant qu'il a donné une explication, le deuxième raconte son rêve, donc patati, patata. Et à la fin du chapitre 40, le grand responsable des boissons ne se souvint pas de Joseph. Il est en prison avec lui, il lui a donné un rêve, une bénédiction, il est sorti, il a repris sa place, mais il l'a oublié. L'oubli, c'est comme l'abandon. On pense souvent que Dieu nous a oubliés, surtout quand il donne des promesses et puis qu'on voit ou qu'on a l'impression qu'elle ne se réalise pas tout de suite. On est d'accord que c'est Dieu qui maîtrise le temps et qui sait qu'il n'est jamais en retard. Nous, on a un petit problème de temps parce qu'on ne vit pas longtemps sur la terre et des fois, on a envie que ça aille plus vite. Vous êtes comme moi, non? Voilà. Et des fois, on pousse un peu parce qu'on se dit « Bon, Dieu, il a peut-être d'autres choses à faire. Je vais m'en occuper, ça va avancer plus vite. » Malheureusement, non, ça ne marche pas comme ça. C'est dans la foi et dans la confiance, et je pense que vous l'avez déjà appris, mais ça ne coûte rien de le répéter, plus vite on comprend qu'il faut faire confiance à Dieu, plus vite la chose que Dieu nous a promis va arriver. Plus vite on va faire à notre manière, plus on va perdre de temps jusqu'à comprendre que Dieu maîtrise. Et puis que ça embellit notre relation, parce que entre un papa et un fils, si on sait qu'il dit quelque chose, il va tenir sa promesse. Moi, mes enfants me demandent des choses, ils savent que je vais leur donner, que ce soit en bien ou en mal d'ailleurs. Non, je plaisante. Mais Dieu, on sait que quand il dit quelque chose, il va le faire. Alors c'est vrai que la gestion du temps, je comprends, c'est quelque chose de pas évident, mais Dieu ne l'a pas oublié. Pourtant, il l'a laissé encore 2 ans dans cette prison. J'allais dire, il était quand même une bénédiction pour la prison, donc Dieu avait peut-être encore plein de gens à bénir. Mais en tout cas, au bout de 2 ans, Dieu met la machine en route et c'est le pharaon qui fait un rêve. Et du coup, il a besoin d'interprète et là, ah mais oui, j'avais oublié, j'ai rencontré un gars qui interprète les rêves. Et Joseph sort de prison et Joseph va interpréter le rêve. Et là, je trouve ça très, très intéressant. Donc c'est 41, versets 8 à 16. Le matin, le pharaon eut l'esprit troublé et fit appeler tous les magiciens, si on avait oublié, et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses rêves, mais personne ne put lui expliquer. C'est ce que je dis, quand Dieu met un truc en place, il le met en place. Et les autres, ils n'ont rien compris et ils n'ont rien pu expliquer. Alors le grand responsable des boissons prit la parole et dit au pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Le pharaon s'était irrité contre ses serviteurs, il m'avait fait mettre en prison. » Dans la maison du chef des gardes, ainsi que les chefs des boulangers. Nous avons tous les deux fait un rêve au cours d'une même nuit, et chacun de nous a reçu une explication en rapport avec le rêve. Il y avait là un jeune hébreu, un esclave du chef des gardes, et nous lui avons raconté nos rêves et nous a expliqué. Tout s'est produit conformément à l'explication qu'il nous avait donnée. Le pharaon m'a rétabli dans mes fonctions et a fait prendre le chef des boulangers. Le pharaon fit appeler Joseph. On s'empressa de le faire sortir de prison. Je trouve ça très drôle, ou pas vraiment, que tu attendes des années en prison et que pour sortir, allez, on y va, on court, on se dépêche. Ça va, ça fait un moment que j'attends quand même, les gars. Je peux prendre mon temps, non? Non. Vous connaissez sûrement Dieu. Dans les temps, il faut apprendre à attendre. Et puis, il y a des moments où il faut accélérer parce que c'est maintenant. Et puis, il faut y aller. Il ne faut plus arrêter de réfléchir, il faut y aller. J'ai trouvé ce clin d'œil très, très sympa. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers le pharaon. Le pharaon dit à Joseph, j'ai fait un rêve. Personne ne peut l'expliquer, donc on va passer le rêve, sinon on va passer la journée à lire le texte, mais vous connaissez le rêve. Et ce qui m'intéresse, c'est au verset 25, je crois. Ce qu'a rêvé le pharaon correspond à un seul événement. Dieu a révélé Il n'oublie pas de dire que c'est Dieu qui a révélé au Pharaon ce qu'il va faire. Donc il explique l'explication du rêve. Si le Pharaon a vu le rêve se répéter, c'est que la décision est ferme de la part de Dieu. On remet Dieu, on n'oublie pas de reciter Dieu, que ce n'est pas juste un rêve comme ça, et qu'il mettra rapidement en œuvre. Maintenant que le Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête de l'Égypte, que le Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour prélever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années à venir qu'ils amassent sous l'autorité du Pharaon, du blé, des vivres dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions formeront une réserve pour le pays pour les 7 années de famine. Ces paroles plurent au Pharaon et à tous ses serviteurs. Le Pharaon dit à ses serviteurs, « Pourrions-nous trouver un homme tel que celui qui a en lui l'Esprit de Dieu ?» Je suis obligé de leur dire, moi ça me plaît d'entendre ça. Je suis désolé. Le Pharaon dit à ses serviteurs, « Pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci à qui a en lui l'Esprit de Dieu. » Je vous rappelle, Pharaon, c'est l'autorité suprême. Et en tant que Pharaon, c'est lui qui dut surveiller que tous les dieux aient un temple pour qu'ils puissent être adorés. Il y a tout un truc, une grosse machine. Il est chef de tout le monde. Il n'est pas ignorant de ce qui se passe, mais il reconnaît que l'Esprit de Dieu est supérieur à tous les autres. Et il ne va pas se tromper en mettant quelqu'un d'autre au gouvernement. Il va mettre quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu en lui. Dieu vous a placé à des endroits, peut-être qui vous plaisent, peut-être qui ne vous plaisent pas. Et il a placé son esprit en vous. Parfois, on est malheureusement limité par le travail qu'on fait. On est parfois limité par les problèmes qu'on rencontre dans le travail où on est. Mais est-ce qu'à un moment ou à un autre, ça vous est venu à l'esprit de partager ça avec Dieu ? De parler tranquillement, pas de prier, de pleurer, parce que ce n'est pas une attitude terrible pour discuter avec Dieu, mais de discuter de cœur à cœur avec Dieu, dans l'intimité. J'ai été 25 ans à la ville de Cannes, et pratiquement tous les ans, j'ai changé de service. Parce que j'avais compris une chose, ou surtout Dieu me l'avait expliqué, c'est que je n'étais pas là simplement pour gagner de l'argent et pour être dans un service, mais j'étais là pour annoncer l'Évangile. Et à chaque fois, j'étais dans un service, et dans mon année, je rencontrais des gens, je priais pour eux, j'écoutais le cœur de Dieu pour eux, et une fois que j'avais libéré le message, il y en a qui se convertissaient, il y en a qui ne se convertissaient pas. L'année d'après, bim, je changeais de service. Et je n'ai jamais été vexé de ça, parce que je savais qu'hop, j'avais une nouvelle mission à remplir. Et ça continuait comme ça tous les ans. J'ai rencontré de nouvelles personnes, j'ai pu bénir de nouvelles personnes. Pas simplement moi, mais parce que j'ai laissé l'Esprit de Dieu agir à travers moi. Alors je ne sais pas si les circonstances vous embêtent ou vous embêtent pas, mais je sais que Dieu a un plan. Quelle que soit votre situation, quel que soit le lieu où vous êtes, quel que soit l'état dans lequel vous êtes, Dieu a envie de faire quelque chose. Et du verset 39 à 44, il nous est dit « Et le Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Petite question, est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Encore le jardin d'Éden. Satan, il vient quoi ? Est-ce que Dieu a dit vraiment la vérité ? Non, mais il a dit ça parce qu'il ne veut pas que vous chopiez son trône, que vous mettiez à sa place. L'ennemi a toujours les mêmes choses à faire, nous embêter. Mais Dieu a toujours les mêmes choses à faire, on est ses héritiers. Et en tant qu'héritier, j'espère que vous l'avez compris, mais on le répétera autant de fois qu'il faudra, on est héritier avec lui et on est créé pour régner. Joseph est un petit gars qui vient d'Israël, qui se fait vendre comme esclave. Il finit à la plus haute place du gouvernement après le pharaon. Si j'ai bonne mémoire, c'est le vizir. Mais quoi qu'on en fasse, il avait l'alliance. Je ne relis pas parce que je vais perdre du temps, mais il avait toute autorité, tout pouvoir sur tout ce qui se passait dans le pays. Alors je ne sais pas combien il y avait de population à l'époque, mais en tout cas, il était responsable de tout. Et encore là, il y a tellement de textes que je pourrais lire, mais le temps est un peu court. Mais vous pourrez relire ce texte pour vous remettre vraiment dans tout ce qu'il a vécu. Il va gérer le truc comme il faut. Il va bénir l'Égypte. Pareil, réflexion, Seigneur, il y a plein de pays autour. Pourquoi tu vas bénir eux ? C'est eux qui détestent le plus toi et qui font tout un tas de trucs pour te maudire. Ben justement, c'est pour ça qu'il faut envoyer Dieu là-bas. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Joseph là-bas. Et qu'il a béni ce pays qui est devenu à son tour une bénédiction. Parce que ayant gardé toute cette nourriture, ça va être une bénédiction pour le pays. Mais tous les pays alentours, ben, ils vont être dans la famine. Et vers qui ils vont venir? Ils vont venir vers l'Égypte. Vous imaginez un petit peu la présence de Dieu dans une personne jusqu'où on peut aller? Et vous allez dire, ouais, mais Claude, c'est Joseph. Non, non. C'est pas que Joseph. Nos seules limitations, c'est les nôtres. Dieu veut qu'on règne, certes, à des endroits différents, tout va bien. Mais on a tous cette position d'autorité qu'il veut nous donner. Mais c'est à nous à la saisir, à lui faire confiance et à marcher, parce qu'il ne donne pas tout, vous avez vu, hein, il y a eu un processus pour Joseph, il y a forcément un processus pour nous. Et quand il nous met dans un endroit et que ça fonctionne, alors après il va nous mettre ailleurs et ça va continuer, ça va continuer et ça va continuer. Et le but, c'est que nous soyons une bénédiction, que nous soyons, c'est-à-dire, une source de la présence de Dieu partout où nous sommes, partout où nous allons. Et j'aimerais finir par ce... Enfin, finir. Il y a le verset 45, qui est très étonnant. Le pharaon appela Joseph Tsaphat Panéach. Désolé, je ne suis pas très fort. Mais ce nom veut dire celui qui découvre des choses cachées. C'est pour ça que j'ai parlé d'éléments secrets. La présence de Dieu, on ne la voit pas. À quel moment, quand vous regardez toute l'histoire de Joseph, physiquement, il n'y a pas la nuée, il n'y a pas ce qu'on a l'habitude de voir. La présence de Dieu, elle est, on a l'impression qu'elle n'est pas là. Mais elle est dans Joseph et on en voit les fruits. C'est ça qui est super important. J'aime souvent Paul qui dit « J'aimerais vous parler d'autre chose, mais vous êtes long à comprendre, donc je ne fais que vous donner du lait. » On dit ben, « Arrête, donne-nous le reste quand même, je ne sais pas moi. » Il y a une frustration, moi, quand je lis ce texte, et même quand vous lisez les premiers pères des églises, ils disent exactement la même chose. Non, on a plein de choses à vous raconter, mais vous n'êtes pas assez encore fortifié pour qu'on vous raconte ça. C'est pas sérieux, et comment on va grandir, nous, si vous ne racontez pas? Et il y a cette idée-là, vraiment, des choses cachées, où il y a ce désir de chercher, d'obéir, de grandir. Alors oui, on connaît la théologie de Dieu, oui, on connaît les lois, oui, on les respecte, mais après, il y a quelque chose de plus. Et il y a quelque chose qui nous emmène ailleurs. Et c'est cette présence qu'on a beaucoup vécue ce matin, cette présence de Dieu veut qu'on s'y plonge et qu'on s'y plonge tout le temps. Et nous, on reste, j'allais dire, dans les textes de loi, et de temps en temps, le Saint-Esprit vient, donc c'est cool, on laisse faire son œuvre. Mais Dieu nous invite vraiment à le rencontrer, lui. Je crois que c'était dans mon dernier message. Dans mon dernier message, je disais, Dieu vient nous rencontrer à l'intérieur de nous, et puis nous, on va le rencontrer à l'intérieur de lui. Alors, vous allez dire, techniquement, comment ça marche? Parce que c'est compliqué, ton histoire. Moi, j'invite des personnes, Monsieur Trippet, je l'invite à la maison, il va apprendre à me connaître, il va voir ma maison, il va voir mon fonctionnement, mes idées. Bon, il va souvent visiter la cave, non, je blague. Parce que j'en ai même plus, maintenant. Il est venu trop souvent. Non, bah... Mais il va apprendre à me connaître et il ne va pas s'imposer, il va respecter mes règles de ma maison et tout ça. Inversement, quand je vais aller chez lui, moi je ne vais pas m'imposer, je vais regarder ce qu'il fait chez lui, comment il fait, je vais respecter tout ça. Et ça marche exactement pareil pour Dieu. Il nous est dit que, 1 Corinthiens 6, 9, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors oui, Dieu habite en nous. Est-ce qu'il est limité pour faire son œuvre en nous? Pas du tout, bien évidemment. Mais il est quand même un petit peu à l'étroit, soyons clairs. Et comme c'est un gentleman, il va respecter nos fonctionnements, il va nous montrer 2-3 bricoles à changer, mais il respecte qu'on soit dans notre maison. Mais il nous invite, parce qu'une relation, c'est jamais au même endroit. Une relation, c'est lui vient, mais moi, un jour, je vais aller visiter Dieu. Alors, je le disais déjà la dernière fois, elle est où l'adresse de Dieu? Dieu est esprit, il est partout. Mais techniquement, on se connecte avec ton esprit à son esprit et on va découvrir qui il est, comment il fonctionne, à quoi ressemble son palais, à quoi ressemble son royaume, quelles sont ses idées, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il attend de nous. Et là, c'est ce que je vous partageais la dernière fois, la compassion, j'ai lu des livres dessus. J'ai lu la Bible sur la compassion. Mais j'ai jamais appris autant sur la compassion qu'en étant rentré dans le cœur de Dieu en esprit. J'étais dans sa maison. J'étais à l'intérieur de lui et je regardais et je contemplais et je voyais et je sentais le fonctionnement de Dieu. Et je me suis dit, Je suis encore loin. Mais j'ai apprécié parce que j'ai compris tout ce que j'ai vu. Et on est invité de plus en plus, Déborah l'a dit tout à l'heure, à venir dans sa présence. Alors des fois, on se dit, se perdre dans sa présence, c'est pas bien quand même, il faut qu'on garde le contrôle. Vous pouvez, mais vous n'allez pas voir grand-chose si vous voulez garder le contrôle. Si vous avez cette confiance en lui, ça veut dire que vous pensez que si vous allez le rencontrer, rien de mal ne va se passer. Si vous avez un doute, ben vous n'allez pas avoir la porte grande ouverte. Mais si vous avez cette assurance que Dieu est bon et que tout ce que vous allez visiter dans sa maison est bon, alors vous allez pouvoir goûter, vous allez pouvoir voir d'abord et goûter tout ce qu'il y a dans sa maison. Et je pense effectivement que c'est vraiment ce que disait Déborah. Alors, tous les ans, Dieu est dans cet état, tous les ans, Dieu veut nous inviter. Il n'y a pas une année spéciale, bien évidemment. Mais j'ai en tout cas vraiment ce sentiment que cette année et ce début d'année, Dieu veut mettre ce focus là-dessus. Venir le rencontrer dans sa présence. Et j'aimerais lire un dernier texte avec vous. C'est Jean 15. C'est pour imager un peu mieux, parce que c'est vrai que quand on veut parler d'une rencontre avec Dieu, ça paraît souvent abstrait. Mais pourtant, il y a des textes qui sont très explicites. Donc c'est Jean 15, en commençant par le verset 4. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Fin d'histoire. Non mais vous voulez qu'il soit en vous, c'est bien, on a le Saint-Esprit certes, mais demeurez. Et demeurez, c'est pareil, c'est pas je viens boire le café 5 minutes, le matin, entre 8h et 8h05 avant d'aller bosser, 5 minutes, ça suffit, Dieu, ça va, il gère, il va pas se vexer. C'est pas une critique, je l'ai fait aussi, mais 5 minutes, qu'est-ce que vous pouvez avoir le temps de dire ou d'entendre de la part de Dieu? Ça va pas matcher. Alors après les temps, il va falloir les créer, c'est sûr. Mais je vous rassure que moi, quand j'étais amoureux de Madame Lucenay, quand nous étions fiancés, du temps, j'en avais pas, mais j'en ai dégagé. Un début, j'allais la voir une fois par semaine, puis après deux fois par semaine, puis après trois fois. Et puis les beaux-parents, ils ont compris, parce qu'après, tous les jours, j'étais à la maison de Madame, enfin demoiselle, du coup. Mais vous voyez, la relation avec Dieu, c'est pareil, c'est de l'amour. Bien sûr qu'il y a des choses qu'on pense importantes dans notre vie, et elles le sont. Mais à un moment, qu'on veut faire la différence... J'allais dire, entre guillemets, on doit payer un prix. Je ne trouve pas qu'il est super lourd, ce prix. Quand vous pensez à ce que vous pouvez lâcher, allez, je ne vais pas dire de non, je vous laisse travailler. Mais qu'est-ce qu'on peut acquérir à la place? J'ai fait l'expérience depuis 30 ans et je sais qu'il n'y a rien qui est comparable à la présence de Dieu. Tout ce qu'il m'a appris sur moi, tout ce qu'il m'a appris autour de moi, tout ce qu'il m'a appris sur lui, c'est des trésors qui valent toutes les autres richesses. Et pour rien au monde, je voudrais autre chose que ce que Dieu a me donné et a prévu pour moi. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. On le sait théologiquement, on est capable de le dire, on est capable de le dire aux autres, mais techniquement, comment on le vit? Est-ce que quand vous allez bosser, vous pensez que Dieu est là, ou quand vous allez bosser, vous emmenez Dieu avec vous? Vous êtes conscient qu'il est là, et vous... Alors moi, je parle comme ça, je suis désolé, mais moi, je tape la causette tout le temps avec lui. J'étais livreur encore, avant d'être pasteur, j'étais livreur DHL. Je m'embrouillais avec un gars, c'était très intéressant d'ailleurs. On n'aimait pas l'injustice tous les deux. On a vécu des trucs tous les deux, donc on n'aimait pas l'injustice, mais on n'avait pas la même définition du mot justice et injustice. Donc on se frittait tout le temps sur le fonctionnement du travail. Il m'a fallu 2-3 jours avant de réagir, et puis après, puisque j'aime la relation avec Dieu, puisque je lui ai parlé de ce problème avec Dieu, il me dit, mais tu sais, il est juste comme toi, il n'aime pas l'injustice. Donc ce serait bien que tu le vois différemment, que tu regardes qu'est-ce qui est injuste dans sa vie, que tu commences à l'aimer, à prier pour lui. J'ai fait ça. Comme Joseph. J'ai libéré qui Dieu est à travers moi. C'est devenu un de mes meilleurs potes de DHL, tout simplement. Après, on faisait des plans ensemble. On va peut-être faire des plans avec mon fils. Donc, juste parce que j'ai pris du temps pour bénir ce garçon, le seul que j'avais pas de bonne relation avec. Mais j'ai quand même béni aussi mon entreprise. Mon entreprise gagnait beaucoup d'argent. Est-ce que parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent, je ne vais pas prier pour eux? C'est quoi ton cœur pour cette entreprise, Père? Prie pour qu'il gagne plus d'argent. Moi, je me dis, c'est un non-sens, c'est pas ça le plus important. Dieu me dit de faire ça, je prie pour que cette entreprise gagne de l'argent. C'est très important d'avoir la présence de Dieu et de l'emmener partout où vous êtes. Il y a des étapes, vous ne mettez pas de pression, mais en tout cas, c'est un vrai encouragement, un vrai challenge que je vous demande aujourd'hui de regarder où vous en êtes et puis d'augmenter chaque jour cette relation avec lui et qu'est-ce que vous pouvez faire avec lui dans certains endroits. Je vais demander à l'équipe de louange si elle peut revenir. Vous avez vu comment ça marche ce matin ? On a adoré. Vous savez bien que Jésus discutait avec la Samaritaine de « on doit adorer en esprit, en vérité ». Alors certes, on se dit ici, on est une équipe de louange, c'est facile de connecter avec Dieu, d'adorer Dieu, de rencontrer Jésus et de regarder son royaume. Mais on peut faire pareil à la maison, et différemment parce qu'on est différents. On n'est pas tous obligés de prendre le même chemin, mais on est tous obligés d'aller rencontrer Jésus qui est la porte et comprendre son royaume, son fonctionnement, et de le laisser lui nous envahir de sa présence, afin qu'il puisse manifester et bénir tous les gens qu'il a envie de bénir, parce que c'est son cœur et ça doit être aussi notre cœur. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Père, je veux te remercier pour qui tu es. Tu ne changes pas. Ton fonctionnement ne change pas. Tu nous as toujours aimés, tu nous aimes toujours et tu nous aimeras toujours. Mais il n'y a pas que nous que tu aimes. Toute ta création, tu l'aimes. Et toute ta création, tu as un rêve toi aussi, c'est qu'elle puisse venir à toi. Et si on n'est pas là présent pour répondre à ton appel, on croit que les ouvriers, c'est des pasteurs. Je suis désolé, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Ce n'est pas que les pasteurs. Chaque homme qui a reçu Christ dans son cœur comme sauveur et seigneur est un messager de Dieu, un ambassadeur de Christ pour emmener son amour là où Dieu veut le poser. Je te remercie pour ce temps que tu nous as fait passer ce matin. Je te prie pour que dans notre mémoire, tu puisses imprimer vraiment, aussi bien dans notre intellect, notre âme et notre esprit, qui nous sommes et quel est notre appel à tous. Et si on a des challenges pour arriver à rentrer dans ta présence, ils ne sont pas assez énormes pour toi. S'ils le sont pour nous, nous allons nous confier en toi pour que tu nous fasses passer ces barrières et pour que nous puissions passer du temps avec toi et pour que nous puissions laisser ton cœur s'exprimer partout où tu veux l'exprimer. Je te prie de bénir chacun de mes frères et sœurs pendant ce chant. Moi, je vais poser mon micro, c'est pas moi qui ai quelque chose à leur dire, c'est toi qui as quelque chose à leur dire. Alors que leur oreille spirituelle, leurs yeux spirituels, tout leur sens spirituel soit allumé, soit en éveil, et que tu puisses communiquer ton cœur pour eux.
Je veux faire de ta présence mes délices. Je veux faire de ta présence mes délices. Habiter dans ta maison, goûter combien tu es bon. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur.